بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فبالأمس أخذنا الحديث الأول، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات. Donc là on a pris le premier hadith que les actes ne valent que par les attentions. Pour permettre de différencier les actes les uns des autres, obligation de surrogatoire, surrogatoire absolu de surrogatoire conditionné, de différencier les actes communs, les adorations, et ainsi de suite, et que la personne est rétribuée en fonction de sa niya. Si elle est bonne, il aura une bonne rétribution, si elle est mauvaise, cela sera de la sorte également. Et sans compter l'exemple que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait avec celui de la hijra. نعم اليوم سندخل في الحديث الثاني الحديث الثاني et c'est un hadith qui est très connu et qui est hadith qui regroupe les fondements de la croyance et il est surnommé comme le hadith de Jibril car ce hadith c'est une leçon que Jibril a donné aux Sahaba par le biais du Nabi sallallahu alayhi wa sallam à travers des questions-réponses. يقول عن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله يصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما مسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رياع الشاء يتطولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم donc c'est un hadith d'une certaine longueur comme vous pouvez le voir d'ailleurs dans le kitab c'est l'un des plus longs avec le hadith de Abu Dhar et un des hadiths de Mu'ad ibn Jabal. Il dit Omar, alors que nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, nous est apparu un homme habillé d'une blancheur éclatante et d'une noirceur, d'une chevelure d'une noirceur intense. Et aucune trace de voyage n'apparaît sur lui. Et aucun d'entre nous ne le connaît. Jusqu'à ce qu'il s'assoie auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors il colla ses genoux à ses genoux et posa ses deux mains sur ses cuisses. C'est-à-dire les deux mains, il y a une divergence dans la compréhension, certains disent qu'il a mis ses deux mains sur les cuisses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres disent qu'il a mis ses deux mains sur ses propres cuisses, et ce qu'Allah est le plus propre, on va dire. Et il a dit, ô Mohammed, informe-moi de l'islam. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'islam c'est que tu attestes de la ilaha illallah et que Mohammed et le messager d'Allah, que tu accomplisses la salat, et que tu t'acquittes de la zakat, et que tu jeûnes Ramadan, et que tu fasses le hajj à la maison, si jamais tu le peux. Il dit, tu as dit vrai. Et nous fûmes étonnés, car il l'interroge, puis il le confirme. Ensuite il dit, informe-moi de l'iman. Il a dit que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au qadar, destin qui soit bon ou mauvais. Il dit, tu as dit vrai. Après, il dit, informe-moi de l'excellence, l'ihsan. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Si jamais tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Ensuite, il lui a dit « Informe-moi de l'heure ». Il a dit que l'interrogé n'en sait pas plus que l'interrogateur. Après, il dit « Informe-moi de ses signes alors ». Il dit que la servante met au monde sa maîtresse. Que tu vois les pauvres, nus et vains nu-pieds, gardiens de troupeau, se concurrencer dans l'élévation de l'édifice. Puis il s'en alla. Donc je reste là un temps, c'est-à-dire Omar qui dit ça. Je suis là un temps. Puis le messager sallallahu alayhi wa sallam m'a dit oh, Omar, sais-tu qui est l'interrogateur? Je dis Allah et son messager sont plus savants. Il dit c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Apporté par Muslim. Ce hadith est l'un des hadiths les plus importants qu'il y ait dans notre religion, car il en regroupe les fondements indispensables à connaître et la croyance de façon globale à avoir. Ce hadith de base, son histoire, c'est que deux tabi'in voulaient se rendre pour le hajj. Et ils avaient entendu les gens auprès d'eux avoir des paroles étranges au sujet de la religion. Il y en a un qui s'appelle Ma'bad el-Juhani. D'accord ? Et ces deux tabirines sont Yahya ibn Ya'mar. Ou plutôt l'un des deux, c'est Yahya ibn Ya'mar. D'accord ? C'est un tabirine. On a dit que les tabirines, c'est qui ? Ce sont les gens qui ont connu les compagnons, mais qui n'ont pas connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y avait un homme à Basra. Basra, c'est une région qui se trouverait aujourd'hui en Irak. Qui s'appelle Ma'bad el-Juhani, qui avait des paroles au sujet de la question du destin. Des paroles qui étaient mauvaises. Donc il dit qu'il voulait partir, c'est-à-dire lui, Yahya ibn Ya'mar, avec Hamid ibn Abdurrahman el-Himyari. Donc ils étaient tous les deux. Yahya et Hamid. Ils sont partis faire une Umrah. J'ai dit Hajj, c'est Umrah, en fait, je corrige. En espérant croiser un des compagnons, donc revenir aux gens de science, pour les interroger au sujet de la parole de ce Ma'bad Juhani au sujet du Qadar, du destin. Et de là, Allah Azza wa Jal leur a accordé de pouvoir rencontrer Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab. Radiallahu anhu. Et de là, salam alaykoum. Ils se sont dit, on va l'interroger au sujet des paroles de ce Ma'bad. Et ces gens-là, ce Ma'bad et les gens qui étaient autour de lui étaient des gens qui avaient du savoir. Des gens qui étaient dans l'ilm. Mais ils disaient qu'il n'y a pas de qadar. Il n'y a pas de destin. D'accord ? Que Allah ne sait pas ce qui va se passer par la suite et que les choses viennent d'elles-mêmes. Donc de là, Ibn Omar, il a dit « Akhbirhum annani bari'un minhum wa annahum bara'un minni ». ولو أن أحدهم تصدق ب مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Et donc de là Ibn Omar il a dit que informe ces gens-là que je suis innocent d'eux, ils sont innocents de moi, c'est-à-dire qu'il les a rendus mécréants parce qu'ils ont dit cette croyance-là. Et il a dit que si l'un d'entre eux venait à donner une sadaqa de l'équivalent de Uhud, vous connaissez Uhud, c'est la montagne qui est le Médina, il donnait une sadaqa en or de cette quantité-là, elle serait pas acceptée tant qu'ils croiront pas au qadar concrètement. Et de là, Ibn Omar cita ce hadith de Omar. Et la preuve de ce que je dis, c'est le hadith qu'on vient de lire. D'accord ? Qu'il a entendu de son père. Donc quand vous connaissez l'histoire de ce hadith, comment elle est venue. Et vous trouvez ça chez l'imam Muslim. L'imam Muslim, dans son sahih, il a cité l'histoire dans son intégralité. Taïb. Donc dans ce hadith, il y a la partie justement qui indique l'obligation de croire au destin. Bien qu'il y ait d'autres sujets. Dans ce hadith-là, il y a différentes questions. En réalité, aujourd'hui, on va passer rapidement, car elles vont être abordées dans d'autres hadiths dans ce même livre. D'accord ? Par exemple, les pieds de l'islam, ils vont être abordés dans le hadith de Ibn Omar par la suite. Également, le destin, on va en parler brièvement, mais dans d'autres hadiths, comme dans le hadith de Ibn Abbas, il va venir, dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, qui sont dans le même livre, ils vont venir tous. Donc on pourra en parler plus précisément, de façon plus explicite par la suite. Parce que là, le hadith, il est un peu long, regardez, il y a tout ça. Tout ça. Vous voyez ? Donc on aimerait pouvoir essayer de le prendre en une séance. طيب يقول يعني العباد رحمه حفظ الله تعالى sachez qu'on peut dire aussi رحمه الله pour un vivant que la miséricorde même si on est vivant on la veut d'accord alors رحمه c'est pas que pour les morts même pour les vivants يقول في حديث جبريل دليل على أن الملائكة تأتي إلى البشر على شكل بشر donc maintenant ce hadith est une preuve que les anges peuvent venir auprès des hommes sous l'apparence humaine. طيب مثال ذلك ما جاء في القرآن في مجيء جبريل إلى مريم في سورة بشر ومجيء الملائكة إلى إبراهيم ولوط في سورة بشر. Parmi les preuves qu'il y a pu cela que dans le Coran, dans la sourate de Maryam, dans son histoire que Jibril s'est rendu auprès d'elle sous l'apparence d'un homme. D'accord? Également Ibrahim ou Lot, les anges sont venus les voir sous l'apparence humaine. Donc c'est une chose qui est connue qu'Allah leur donne la capacité de pouvoir avoir l'apparence d'un homme. Ensuite, يقول رابعا في ما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلوسه بين يديه بين شيء من آداب طلبة العلم عند المعلم. Et ce hadith nous apprend également le comportement que l'étudiant doit avoir face à son enseignant. De quelle façon Jibril est venu, s'est présenté au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et comment l'échange a eu lieu entre eux, car en fait c'est un ders qui s'est passé. C'est du ilm qui a eu à ce moment-là. Donc, par exemple, le fait de s'asseoir en face de l'enseignant, de venir son apparence propre. Taïeb. Et également, il se donne la faïda que tu peux interroger ton enseignant, une question que toi, tu connais la réponse, mais tu veux que d'autres en profitent, en fait. D'accord ? Tu vas poser une question, tu sais la réponse, tu as la preuve, tu as tout, mais il y a des gens là qui sont là qui ne connaissent pas et tu veux qu'ils entendent de toi. Ou plutôt du professeur, ou du cheikh, ou du savant, la personne auprès de qui tu apprends. Donc tu peux faire cela. Comme ça, tu diras, sa réponse à lui, elle aura plus de poids. D'accord ? Les gens là, ils sont attentifs, ils écoutent, ils sont venus en situation d'apprentissage. Donc cela, Taïeb, est un procédé d'enseignement qui est très correct. Également, dans ce hadith, on y voit que Jibril a enseigné aux gens par le procédé de questions-réponses, qui est l'un des procédés les plus profitables. Quand tu interroges quelqu'un, d'accord ? Assalamu alaikum. Tu interroges les gens, même s'ils ne savent pas. Et tu sais qu'en les interrogeant, ils vont rester, on va dire, ils vont être captivés par ta question. Et quand tu donnes la réponse, ils ne vont pas oublier. Puisque si tu parles comme ça tout seul, longtemps, ils t'écoutent, mais quand tu dis par exemple, Hendek, une question pour toi, hop, tu vas te figer, tu vas dire, ah, c'est quoi la question? Tu auras un peu peur même. Je pose la question, tu connais ta réponse, tu vas dire, je ne sais pas, Allah Alem. Là, je te donne la réponse, et bien, dans ta tête, ça va rester. Tu ne vas pas oublier, Bismillah Ta'ala. Et le Nabi, il faisait seul avec les compagnons des fois, il posait une question. Il sait qu'ils n'ont pas la réponse, mais le but, c'est quoi? De leur enseigner. De leur enseigner. Donc, là, cela nous enseigne qui est parmi les méthodologies d'enseignement, les questions-réponses. Et les sahabas disaient qu'ils aimaient lorsque des gens venaient de l'extérieur pour rencontrer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il y avait des questions-réponses. Eux, ils n'osaient plus l'interroger. Ils étaient tout le temps avec lui, ils ne voulaient pas le déranger. Mais quand un étranger venait, ils aimaient cela car ils savaient que l'étranger allait l'interroger, donc ils allaient profiter en écoutant les réponses. Naam. يقول طيب خامسا قوله قال يا محمد أخبرني عن الإسلام donc sa parole lorsque Jibril a dit au Mohammed informe-moi de l'islam donc là le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu طيب l'islam c'est que tu attestes de la ilaha illallah et que Mohammed est le messager d'Allah et il y a cité les cinq piliers ça on en reparlera plus profondément dans le hadith de Omar qui parle des piliers de l'islam. Bunya l'islam ala khams, shahadat alla ilaha illallah, wa la muhammad rasulullah, wa iqami salat, wa itai zakat, wa soumi ramadan, wa hajjil bayt. Ce hadith, ça va être, non, c'est le troisième. Celui qui est après celui-là. Il parle des piliers, donc, à ce moment-là, on en reparlera plus. Mais ce qui est à retenir, c'est que là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité l'islam général, ou plutôt afwan. Là, c'était l'islam qui était spécifique. L'islam Il est de deux sortes. Il y a le général et le spécifique. Le général, c'est celui que tous les prophètes sont venus. Car tous les prophètes et messagers étaient des musulmans. Tous. D'accord ? Comme encore le Ta'ala, « وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مُشْرِكِينَ » Qu'Ibrahim n'était ni un Yahoud, ni un Nasara, ni un chrétien, ni un juif, mais il était un Hanif, un musulman, n'était pas du nombre des mushrikines. Et comment aurait-il été juif alors que la Torah n'était pas encore descendue à son époque, ni la Bible, l'Évangile. Mais il était musulman, qui est l'islam, qui est l'islam lillah bi tawhid, wa al-qiyad lahu bi ta'ah, wa al-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. L'islam général, c'est la soumission à Allah par le tawhid, et l'assujettissement à lui par l'obéissance, et le désaveu du shirk et de ses gens. On se désavoue du shirk, mais également des gens du shirk, c'est-à-dire les koufars dans leur ensemble. C'est ça l'islam général. Tous les prophètes étaient là-dessus. Ensuite, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'islam spécifique qui est celui qui est cité là dans le hadith, qui sont les deux attestations, et qui sont yani les cinq piliers en fait, en tout. D'accord ? À savoir que ces cinq piliers-là existaient chez les autres également. Les cinq piliers-là qu'on a dans l'islam, les communautés antérieures l'avaient également. Maintenant, on ne sait pas comment ils le faisaient. Et cet islam, car après, par la suite, il va l'interroger au sujet de l'Iman. Quand on cite les deux, l'islam ou l'Iman, il y a une différence. Et quand on cite un seul, il englobe l'autre. Par exemple, l'islam, quand on cite l'islam tout seul, c'est l'Iman. Les deux, ils ont le même sens. Quand on cite l'Iman, c'est l'islam, ils ont le même sens. Mais quand on cite les deux ensemble, il y a une différence. Les ulama expliquent que l'islam, on va le citer pour les actes apparents, car c'est la soumission. Et l'Iman, c'est les actes intérieurs. D'accord ? Et là, dans le hadith, ça coïncide avec ce qu'on vient de dire. Car le Nabi, il parle de choses apparentes. Les deux attestations qui sont prononcées, et les cinq piliers qui sont les actes apparents. Et par la suite, il va parler de l'Iman, qui sont les choses qui sont relatives à la croyance. Ensuite, il dit, قال صدقت فعجبنا له يسأله يصدقه. Donc là, le fait que les compagnons ont été surpris du fait que ils savent pas que c'est Jibril qui est là. Pour eux, c'est un homme qui est venu, qui vient de nulle part, dans le désert, voyageur, qui vient tout propre, les cheveux noirs et le vêtement blanc éclatant. C'est une chose qui est incroyable. Normalement, quelqu'un qui vient de voyage, en plus dans le désert, il arrive, les cheveux ébouriffés, tout sali, tout fatigué. Là, il arrive de nulle part, personne ne le connaît, il arrive propre, comme si la maison était à côté. Et pourtant, non, il n'y avait rien. Et en plus de cela, il interroge, il dit « tu as raison ». Je me dis « comment il interroge ?» Il dit « il a raison ». À la base, il t'interroge, c'est que tu ne sais pas. Donc ça les a surpris, cela. Donc là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, qu'une personne peut interroger d'une chose qu'elle connaît, mais dont elle veut faire profiter la réponse à l'assemblée aux autres qui sont là. « Qala sabi'an kouluhu » Donc la deuxième question que Jibril pose au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est de l'informer au sujet de la foi. Al-Iman. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. C'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et ça, ce sont les piliers de la foi. Les six piliers de la foi. Il faut les avoir tous les réunir. Celui qui n'en a qu'un seul, qu'on n'a que cinq, ou que quatre, ou que trois, c'est pas un mu'min. Mais si tu dis ce que tu veux, il fait la salade comme toi ou quoi, mais il y a des choses là-dedans auxquelles il croit pas, c'est pas un mu'min. Et c'est quoi la preuve? C'est, on a cité au début du hadith, la cause de ce hadith, c'était laquelle? C'est quoi la cause du hadith? Pourquoi Ibn Omar? C'était le hadith de son père. Qui s'en rappelle? Non, vous n'avez pas oublié. Vous n'êtes pas timide. Il y a des gens qui ne croyaient pas au Qadar. Donc ils sont partis voir Ibn Omar pour l'interroger. Et Ibn Omar a dit que ces gens-là, je suis innocent d'eux, ils sont innocents de moi. Et que s'ils dépensaient l'équivalent de Uhud en or, Allah n'avait pas accepté d'eux, donc ils ne croyaient pas au Qadar. Et après, il a cité ce hadith-là. Et lui, il voulait quoi, cette partie-là? Que l'Iman, la croyance, un tu'mina billah, que tu crois en Allah, en ses livres, en ses messagers, en ses gens, en ses anges, au jour dernier et au destin. C'est ça qu'il voulait, on appelle le shahid dans le hadith, la partie qui nous intéresse concrètement. Donc il faut croire en tout cela. Ça y est. Et cette croyance en Allah, c'est pas comme les gens disent « je crois en Dieu ». Il Combien de gens disent cela? Les Yahoud, ils le disent. Les Nasara, ils le disent. Et même des gens qui se disent irreligieux, c'est-à-dire qu'ils disent « Je crois à un Dieu, mais je n'ai pas de religion. » Ils le disent « Moi, je crois en Dieu. » Est-ce qu'ils sont des croyants pour autant? Non. Pourquoi? Car ils n'en pissent pas ces piliers-là. Donc c'est... Et on va dire qu'ils ont une croyance partielle. Oui. Mais cette croyance-là, pour Allah Zanjel, elle ne suffit pas pour faire de toi un croyant qui sera accepté au Jannah par la suite. Leur croyance, elle n'est pas suffisante. Oui. Donc maintenant, croire en Allah, qu'est-ce que cela signifie? Croire en sa présence. Évidemment. En son existence. Ça, là-dessus, je pense qu'on sera presque tous unanimes. Mais maintenant, il faut croire en Allah, en son tawhid. Voyez, tawhid ar-rububiyya. Quand tu crois en Allah, dans sa seigneurie. C'est-à-dire que Allah Azawajal, ce qui lui est propre comme acte, que seul lui peut faire, comme donner la vie, donner la mort, la subsistance, d'accord, la création, contrôler tout. Car t'as des gens qui vont dire « je crois en Allah », mais parmi ces actes-là, ils vont les attribuer à la créature. Ils vont attribuer les actes d'Allah Azawajal à la créature. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils auront fait? Du shirk. D'accord? Par exemple, les gens qui croient à la chance, qui croient en porte-bonheur ou porte-malheur, il n'y a pas de porte-bonheur. Ça, c'est des choses que Allah Azawajal l'a décrété. Ils vont dire, non, c'est grâce à ça que j'ai été sauvé. D'accord? C'est grâce à ce truc que j'ai accroché dans ma voiture, j'ai été sauvé. Il dit, là, toi, là, en disant ça, là, même tu dis, je crois en Allah, eh ben, tu mécrois en ses actes. Tu auras attribué ce que seul Allah peut faire à une vile créature qui n'est capable même pas de se défendre elle-même. Donc, en faisant cela, tu as fait du shirk. Voyez? Donc, tu crois en Allah, son unicité dans sa rububiyya. Tu crois en Allah, son unicité dans al-uluhiyya, dans sa divinité, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui doit être adoré. Que lui qui mérite l'adoration. Et après, il y a des gens, comme ils ignorent c'est quoi l'adoration, ils font des actes qui sont des adorations qu'elle veut pour lui, ils vont les faire pour autrui. Ils vont dire, moi, quand je fais ça, je ne veux pas une adoration. On dit, toi, tu ne veux pas, parce que ce que tu fais là, c'est une chose que Allah a dit que c'est une adoration, c'est à lui que tu dois le faire. Comme adora, l'invocation. Combien de gens invoquent les morts? Combien de gens invoquent les absents? Combien de gens placent leur espoir sur les créatures, dans les choses que cela la peut faire? Combien de gens ont peur de créatures, dans les choses que cela la peut leur faire subir? Et autres. D'accord? Donc en faisant cela, ils font du shirk également. Ils vont te dire, je crois en Allah, je sais qu'il existe, ainsi de suite. Oui, mais dans ta adoration, tu l'attends pour autre que lui. Donc tu as fait du shirk qui est le pire des péchés. Pire que tuer, pire que violer, pire que voler, pire que tous les péchés du monde. C'est ce que tu es en train de faire là. Et les gens, quand tu leur dis ça, ils réalisent pas. Mais on t'exagère. Je fais non, ils n'exagèrent pas. Cet acte que tu es en train de faire là, te fermera les portes du Jannah si tu mords dessus sans tawba. Un m'a tué, c'est grave, très très grave. Mais elle a peut te pardonner. Violer, c'est grave. Mais elle a peut te pardonner. Si jamais tu ne fais pas de shirk. Un m'a le shirk. Inna Allah la yarfilu un shlakabi. Ou yarfilu man zalika li man yasha. Que Allah ne pardonne pas qu'on associe quoi que ce soit. Mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Donc Allah, il peut pardonner tous les péchés, mais pas shirk. Pour celui qui meurt dessus. Et la plupart des gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Du shirk. On le rappelle souvent. Tu verras des gens, ils ne volent pas. Tu verras des gens qui ne mentent pas. Tu verras des gens qui ne forniquent pas. Dans cela, ils sont rares. Tu verras des gens qui ne tuent pas. Ils font pas de mal. Mais quasiment tout le monde fait du shirk, à part les croyants. Même dans l'islam, chez les musulmans, t'en as plein, la plupart, ils font du shirk. Après, t'en as peut-être qui sont excusés parmi eux, par l'ignorance. Ça, c'est une autre question qu'on va pas aborder maintenant. Mais tu verras, regarde bien la Oumma dans son ensemble, le shirk, il est présent chez nous. Dans les pays arabes, tu verras des gens qui vont invoquer les tombes, qui vont croire dans au wali, qui n'est pas un wali, qui vont croire des choses, au porte-bonheur, au porte-malheur. Ces choses-là, ils vont y croire. Ils vont y granger pour tuer Allah Zawajel, ils vont aller voir les marabouts, les sorciers, ainsi de suite. Il va se dire, je suis musulman, je dis la ilaha illallah, je fais salat. Tu vois. Alors que dire des autres qui ne sont pas musulmans? Les gens font tous du shirk. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Et t'en as, ils le savent. Et t'en as, ils s'en fichent. Pour eux, c'est pas plus important. Pour eux, c'est dire, je crois en Dieu, le reste, t'as pas à me juger. Ça, c'est faux. D'accord? Ça, c'est faux. Donc, il dit également que tu unifies Allah Azawajal, tu crois en ses noms et attributs. Allah Azawajal, il a des noms. Les plus beaux noms, des attributs, des choses qui sont propres à lui. Il faut y croire. Sans comparer Allah à la créature. D'accord? Sans chercher un comment Allah Azawajal. C'est de comprendre comment. Ses attributs. Vous voyez, sans lui donner d'équivalent, et sans également, quand tu vois que l'attribut te paraît inconcevable ou quoi, que tu veux le transformer ou l'interpréter ou même le supprimer. Ça s'appelle le tartil. Ce que beaucoup de sectes font aujourd'hui, comme les Ash'ariyya ou autres. Quand tu dis Allah, il a des mains, il dit non, Allah, il a pas de mains. Parce que ça veut dire qu'Allah, il a une main comme la nôtre, et ça veut dire que ceci, ceci, cela. On dit non. Tes déductions, elles sont complètement fausses. Tu vois? Que dire Allah, il rit. Dans la sunna, c'est venu qu'Allah, yadhik ila rajulayn. Yaktul ahadum al-akhar, yaktul yatrulayn al-jannah. Que Allah, il rit de deux hommes. Il y en a un qui tue l'autre, et les deux vont au jannah. Le contraire de ce qu'on disait hier. Il a dit, c'est quoi, ces deux-là? T'en as un qui était sur le jihad. D'accord? Il s'est fait tuer par l'ennemi. Il est mort shahid. Il va au jannah. Et l'autre après, il rentre en islam, il se convertit, et il se fait tuer également. Les deux sont entre au jannah. Pas mal? Allah Azzawajal, il rit de ces deux-là. Et autre. Donc ces attributs, il faut y croire. Comme ils sont venus dans le Coran et dans la Sunna. Ce qu'Allah dans le Coran nous a dit comme attribut, donc il a, on y croit. Et ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu comme hadith authentique, on y croit. Tout cela, ça rentre dans la croyance en Allah. Dire je crois en Dieu, comme les gens le disent, ça ne suffit pas. Et également, il faut voir Allah Azzawajal le purifier de tout défaut, de tout manque. Allah, il est parfait. Que Allah, parmi les pires choses qu'on puisse dire de lui, c'est qu'il a un fils. Comme le disent les Nasara. Ou qu'il est le père. Allah, il n'a pas enfanté. Allah n'est pas le père. Allah, c'est le créateur. C'est le seigneur des mondes. Il n'est pas notre père. Le troisième des trois. La croyance de la Trinité qu'il y a chez les Nasara. Ou les Yahoud qui disent Ruzayl ibn Allah. Ils disent que Ruzayl, c'est le fils d'Allah Azzawajal. Aujourd'hui, tu parles avec les Yahoud, ils vont dire, on ne dit pas ça, nous. Je ne sais pas comment il s'appelle dans, aujourd'hui. Là. Ils ne disent pas Ruzayl. Il y a un autre nom. D'accord ? Mais ça revient à cet homme-là. De toute façon, dans le Coran, Allah, il l'a dit. Donc même s'ils disent non, on ne le dit pas, on dit Allah, dans le Coran, il l'a dit, nous, on croit que vous le dites. Et si vous ne le dites pas aujourd'hui, vos pères l'ont dit. Et vos fils le diront. Vous voyez ? Dans le Coran, Allah dit la vérité. Donc tout ça, ça rentre dans la croyance en Allah de façon... Là, on parle de façon résumée. Ce hadith-là, et cette partie-là, c'est des kutub et des kutub et des kutub dans l'aqida qui ont été écrites. Des volumes. D'accord ? C'est des volumes. Ce hadith, il est venu là, en quelques lignes. Il est expliqué en des volumes entiers de livres. Ensuite, on a dit que tu crois en Allah Azzawajal. Plutôt, tu crois dans le hadith en ses livres. Aux anges, plutôt. Les anges, comme vous le savez, makhlukat min an-nur. Sont des créatures créées à partir de lumière. Et ils sont un nombre, pour nous, c'est indénombrable, tellement ils sont nombreux, les malaïkas. Il y a des malaïkas qui ont des fonctions particulières, précises. Dans le Coran et dans la Sunna, certains ont été nommés comme Jibril, qui est le Ashraf al-Malaïka, qui est le plus noble. Pourquoi ? Parce que lui fait descendre la révélation sur les messagers. Il y a Israfil, celui qui va souffler dans la trompe, le Melkiyama. Il y a Mikaïl, celui qui fait descendre la pluie et qui donne la vie à la végétation. Il y a Malak al-Maut, l'ange de la mort, qui vient prendre les âmes. Il y a Malik, Khazin al-Nar, qui est le gardien de l'enfer. Eux, ce sont leurs noms. Dans la Sunna, ils ont été affirmés. D'autres, on ne connaît pas leurs noms. Mais on croit leur existence. D'accord ? Ils sont très nombreux, très nombreux, très nombreux. Ils sont des créatures qui ne font qu'obéir à Allah Azzawajal, l'adorer. C'est tout. Et ils n'ont pas de shahawat, comme nous, des envies, tentations. Ils n'ont pas ça, les malaïkas. Nous, on a ça. Ils ont des ukul, des raisons, d'accord ? Mais ils n'ont pas de shahawat. Tayyib. Donc les anges, on y croit, et en plus, on les aime. Et qui n'aimerait pas un ange ? Comment ne pas aimer les anges ? Les créatures qui sont dans l'obéissance totale du matin au soir, et qui ne font aucun mal. D'accord ? Summa qal wa kutubihi, ses livres. Car Allah Azzawajal a fait descendre des livres sur les messagers précédents. Ces livres, certains ont été nommés et d'autres non. Mais on croit en tous. Parmi les livres, il y a Suhuf Ibrahim wa Moussa, les feuillets d'Ibrahim et de Moussa. Il y a At-Torah, qui s'appelle la Torah aujourd'hui, qui est le livre de Yahoud. Mais la version actuelle, elle est altérée, elle est modifiée. Mais le livre qui est descendu sur Moussa, aujourd'hui, on l'a plus tel qu'il était. Mais on sait que c'est un livre qui venait d'Allah Azzawajal, et sa parole qui était incréée. On a l'Injil, le livre qui est descendu avec Isa, alayhi salam. Ce livre, aujourd'hui, on ne l'a plus. On a, on va dire, des témoignages d'apôtres, mais l'Injil qui est venu sur Isa, On l'a plus. Ce qu'on appelle l'évangile aujourd'hui, c'est pas le livre qui était fait avec Issa, c'est les témoignages des apôtres qu'on a maintenant là. D'accord? Et ce livre, quand il est venu, c'est la parole d'Allah Azzawajal, incréé également. On a Zubur, ce qu'on appelle les psaumes de Daoud. Les psaumes de Daoud. Et on a, bien sûr, le plus noble et le dernier et le meilleur des livres, qui est le Coran, qui est toujours présent, qui est inaltéré, il est inaltérable, il est protégé. Et il sera jusqu'à avant la fin des temps. Et avant la fin des temps, Allah Azzawajal va le réélever auprès de lui. Et c'est le livre, en réalité, qui regroupe l'essentiel. Et tout ce qu'on a à savoir en ce bas monde, pour pouvoir être dirigé, être guidé. Le Coran. Sans le Coran, wallah, on est perdu. Sachez-le. Ce livre, faut s'y accrocher le plus possible. Normalement, on doit faire en sorte qu'il n'y ait pas un jour qui passe sans que nos yeux ne soient pas sur le Mushaf. Pour ceux qui savent lire l'arabe. Et ceux qui ne savent pas lire l'arabe, au moins qu'ils essaient de lire la traduction approximative. Ce livre-là, ça doit être, c'est le livre de notre vie. Il est trop négligé, trop mis de côté. Et ça, c'est une erreur grave qu'il y a chez nous. Et c'est la parole d'Allah Azzawajal et il est incréé. D'accord ? Il est en arabe. Le Coran, il est en arabe. Soumaqal, Borusuli et ses messagers. Que Allah Azzawajal envoie des messagers et des prophètes. Pourquoi ? Pour nous indiquer la voie à suivre. Ces messagers ont été envoyés comme avertisseurs et annonciateurs. Ils avertissent du châtiment, ils annoncent la bonne nouvelle du Jannah. Donc il faut les suivre. Ils sont les meilleurs des hommes. Les messagers et les prophètes sont les meilleurs des hommes. Dans le Coran, Allah Azzawajal, il en a nommé 25. 18 dans un même verset. Et 7 autres dans différents versets. Vous savez, il y a comme encore le Ta'ala, « وَتِلْكَ الرُّسُولِ وَتِلْكَ حُجَتُنَا أَتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفُ دَرَجَةٍ مَنْ نَشَاءِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا. Non, c'est pas le verset là que je voulais. Il n'a pas mis Tilka Rusul. Ah non, ça c'est surat. Non, j'ai confondu une âme. Yaqul wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qalb wa min zuriyati Daoud wa Suleyman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun. Kazalika najzi al-Mursinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun min as-Salihin wa Ismail wa Yasi'a wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna ala al-Alamin. Dans le sens où elle a dit. Tel est notre argument. Nous avons à donner Ibrahim comme argument, c'est-à-dire sur son peuple. Donc le premier, Ibrahim, nommé ici. Et nous avons élevé en degré qui nous voulons. Et que ton Seigneur est sage et omniscient. Et nous avons accordé, c'est-à-dire Ibrahim, Ishaq, Yaqub, et tous ont été guidés. Également Nuh, votre messager nommé. Nous l'avons guidé auparavant. Et dans sa descendance, il y a Daoud, il y a Suleyman, il y a Ayoub, il y a Youssouf, il y a Moussa, il y a Haroun. C'est de cette façon que nous rétribuons les bienfaisants. Il y a Zakaria, il y a Yahya, il y a Isa, il y a Ilyes. Ils sont tous parmi les gens de droiture. Il y a Ismaïl, il y a Yassira, wa Younous et Lot. Tous ont été préférés sur le monde entier. Et ensuite, il y a 7 autres qui restent. Il y a Adam, qui est le premier des prophètes, le premier des hommes, de toute façon. Il y a Idris, il y a Hud, il y a Salih, il y a Shu'aib, il y a Zulkifl, et il y a, bien sûr, le meilleur et le dernier, qui est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et tous, on les aime. Et tous, on y croit. D'accord ? Et ça, ce sont ceux qui ont été nommés, et d'autres qui sont venus qui n'ont pas été nommés, dans le Coran. Dans un hadith qui est venu, il y a un relève sur son degré d'authenticité, qui dit que les prophètes, ou plutôt à la fois les messagers, étaient de 315. Et que les prophètes, des milliers, des milliers, des milliers. Donc on croit en ceux qui ont été nommés, et ceux qui n'ont pas été nommés, on sait qu'Allah Azzawajal les a envoyés. Et tous avaient le même message et la même croyance. Après, les rites de leur communauté différaient. Et sinon, tous étaient musulmans, tous sont appelés au tawhid, ont mis en garde contre le shirk. Et on appelait les gens, on indiquait aux gens comment faire pour entrer au Jannah et éviter de tomber dans le feu. Ensuite, il y a la croyance au jour dernier. La croyance au jour dernier. Tu'mina bi yawm al-akhir. Ce jour dernier, cela englobe tout ce qui se passera après la mort. Comme la tombe, ses délices, ses châtiments. D'accord ? également la pesée, la balance, le pont à traverser, le haoud, le bassin du Nabi, le rendu des comptes, le jugement qu'on aura, et ainsi de suite. La vie dans le barzakh, tout ça, on doit y croire. On doit y croire. Et tu verras qu'il y a des gens, parmi les gens de l'islam, des choses là-dedans qui les réunissent. Pourquoi ? Car ça ne rentre pas dans l'horizon, ils disent. Pour eux, c'est inimaginable. Par exemple, châtiment de la tombe, prenez, ils vont dire quoi ? On a creusé, on a regardé la tombe, on n'a rien vu. On dit, c'est ça ton argument ? Ça, c'est une chose qui est liée à l'invisible. Les malaïkas, tu les vois ? Tu crois aux malaïkas ? Ils vont dire oui. Tu les vois, tu les as vus ? Non. Quand l'ange de la mort, il vient prendre ton âme, tu vois le malaïka qui prend ton âme ? Toi, le vivant, je ne parle pas celui qui meurt. Celui qui meurt, il le voit. Et d'ailleurs, son regard suit son âme qui monte. C'est pour ça que tu vois les morts, leurs yeux sont vers où ? Vers le haut. Parce qu'ils suivent leur âme qui part avec le malak. Ça y est. Donc on dit à ces gens-là, l'ange de la mort, quand quelqu'un y meurt, tu le vois ? Non. Pourtant, tu y crois. Pourquoi tu ne vas pas croire au châtiment de la tombe ou à ces délices ? Ça, c'est des choses qui sont liées à l'invisible. On ne les voit pas. Comme quand on rêve. On rêve la nuit. Il se passe des choses. Est-ce que les gens voient que tu rêves ? Non. Pourtant, quelqu'un a dit « j'ai rêvé ». Et ça, un rêve, c'est une chose qui n'est pas forcément concrète. Il y a différentes formes de rêves. Mais ça, c'est une chose qui est liée à ce qui touche aux croyants dans l'au-delà. Et c'est concret. Et ça existe, et il faut y croire. Il faut y croire. Donc, tout cela rentre dans la croyance au jour dernier. Le Jannah, le Nar, et ainsi de suite. Et l'iman du Qadar, la foi au destin, que Allah Azawajal a prédestiné toute chose et a créé toute chose à juste dose, jusqu'au jour dernier. Et que cette foi au destin, elle a quatre maratib, quatre échelons, quatre étapes. Première chose, ilm, que Allah connaît les choses. Deuxième étape, al-kitab, que Allah écrit les choses. Troisième étape, que Allah a voulu les choses. Quatrième étape, que Allah a créé les choses. Tout cela, on en reparlera, Inch'Allah, dans le hadith dans les hadiths qui sont liés au destin. Thumma, qalef, arbirni, anali ahsan. Informe-moi de l'excellence. Il a dit que tu adores Allah comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. Cette ihsan, il y a l'ihsan qu'il y a entre les créatures. La bienfaisance. Il y a l'ihsan qu'il y a entre le serviteur envers lui-même. Non, viens de le dire. Koulou hada yatroulfi. Naam. Et il y a ce qui est voulu dans ce hadith, c'est l'irsen qui a lieu entre le serviteur et son seigneur. Vous voyez ? Cet irsen, c'est le niveau le plus haut pour le croyant à atteindre. Qu'il adore Allah comme s'il le voyait. Mais comme il ne le voit pas, car Allah dans cette dunya ne veut pas qu'on le voit, alors qu'il sache que Allah lui le voit. Ça s'appelle le muraqaba, que tu sens, que tu surveilles, que tu observes. Celui qui atteint ce stade-là, il ne va pas refaire les choses. Et les choses, il va les faire avec perfection, car c'est ce qu'on observe. Et ce n'est pas à son patron qui l'observe, ce n'est pas à son père qui l'observe. Ce n'est pas la police qui l'observe. C'est son seigneur qui l'observe. Celui à qui il va rendre des comptes, et celui qui lui donne ou qui le prive, concrètement. Donc, comment il va se comporter ? Avec droiture. Mais ça, par exemple, cette muraqaba, elle est faible chez nous. On oublie trop souvent qu'elle nous observe. Parce que franchement, si on savait ça, croyez-moi qu'on serait toute la journée comme ça. Du matin au soir, comme ça. Cependant, on oublie. On est inattentif, on est insouciant. Et surtout, on est très ignorant. Cette chose-là, on la minimise, on la néglige énormément. Donc c'est pour ça que c'est le niveau le plus haut. Celui qui a ça en lui, qui s'en rappelle, min ahsan an-nas, parmi les gens les plus craintifs qui est sur Terre. Donc il dit maintenant l'islam, al-iman wa al-ihsan. Trois niveaux différents. Tout mursin, qu'al-ihsan, il est forcément mu'min, il est forcément muslim. D'accord ? Que tout mu'min est forcément muslim. Quand on descend en degré. Mais ce n'est pas tout muslim qui est forcément mu'min ou mursin. Masalan, le muslim, le munafiq, c'est un muslim. Pourquoi ? Car il fait les actes apparents. Il les fait. Le munafiq, il cache le kufr, mais il fait apparaître l'islam. Donc on va dire c'est un muslim. Mais est-ce que c'est un mu'min ? Non, parce qu'au fond de lui, il ne croit pas. Alors encore moins un mursin. D'accord ? C'est pour ça que dans le Coran, elle a dit, قالت الأعراب آمنا كلن تؤمنوا ولكن كلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Que les bédouins, ils ont dit, nous avons cru. Dit, vous n'avez pas encore cru. Cependant, dites, nous sommes soumis. Car la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. C'est-à-dire, ils sont soumis dans le fait qu'ils obéissent. Mais l'Iman, hakikaten, n'est pas encore entrée dans leur cœur. D'accord ? Bien confondre, de ne pas là-dessus, on va dire, s'embrouiller. D'accord ? Le musulman, c'est quoi ? C'est celui qui fait les actes apparents. Le mu'min, il est forcément musulman, il fait les actes apparents, il a la croyance en lui. Et le mursin, celui qui arrive à adorer Allah Azza wa Jal, en sachant qu'il le voit. D'accord ? Ce sont des étapes différentes. Ensuite, il dit, فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ, informe-moi de l'heure. Donc, il a dit quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, مَا مَسُلُوا عَنْهَا بِأَعْلَمْ مِنَ السَّاعِلِ, que l'interrogé n'est pas plus savant que l'interrogateur. C'est-à-dire, l'heure, je ne la connais pas. Car l'heure, c'est parmi les choses que seul Allah Azza wa Jal connaît. Il n'y a que lui qui sait. D'accord ? إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ, que certes Allah, il a le savoir de l'heure. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, que celui qui a les clés de l'invisible, et nous ne le connaissons en dehors de lui. Personne ne les connaît. Et l'auteur, Cheikh Al-Abbad, il dit, maintenant, on a une indication de l'heure. On sait quel jour elle aura lieu. Mais quel mois, on ne sait pas. Quelle année, on ne sait pas. On sait quel jour elle aura lieu, et à quelle heure elle aura lieu. يَقُولُ في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيل يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا هي مسيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم le meilleur des jours sur lequel s'est levé le soleil, c'est le vendredi. D'accord ? Car c'est le jour dans lequel a été créé Adam. C'est le jour où il était descendu sur terre. C'est le jour où son repentir a été accepté. D'accord ? Et c'est le jour où il est mort, un vendredi. Et c'est le jour où l'heure elle aura lieu. Et qu'il n'y a pas un animal sur terre sans qu'il ne soit craintif chaque Jumu'a. Car les animaux savent que l'heure aura lieu le Jumu'a. Et qu'elle aura lieu à quel moment ? Au lever du soleil. Donc il indiquait tout être, en fait, c'est même pas animaux, c'est tout être vivant, c'est, et dans la crainte, chaque Jumu'a, hormis les humains et les djinns. Dans le hadith, il dit, le djinn et les humains, eux, ils sont, comme on dit, inattentifs. Et parmi les hommes, les humains, seuls les muslims savent cela. Et parmi ceux qui le savent, seuls ceux qui ont appris s'en rendent compte. Mais maintenant, ce Jumu'a-là, il aura lieu quand ? On ne sait pas. Et comme vous le savez, dans le hadith, ça va venir qu'il y a des signes précurseurs. Des signes majeurs, des signes mineurs. Les signes mineurs, plein sont passés. Les majeurs ne sont pas encore passés. Donc on sait que ça va appeler cette Jumu'a là qui arrive. Qu'il y a des signes qui doivent arriver avant. Ils ne vont pas lieu en une semaine. Mais c'est proche. C'est très très proche. Donc il dit, après qu'il lui ait dit qu'il ne connaissait pas quand est-ce que l'heure elle aura lieu, il a dit donc, informez-moi justement de ces signes qui indiquent que cette heure elle va arriver. Donc il dit parmi les signes, il n'y a que des signes mineurs. Que, par exemple, la servante va mettre au monde sa maîtresse. L'auteur, il cite là, comment comprendre cette partie du hadith ? Il y a deux explications principales. L'une, c'est qu'il y aura tellement de guerres à la fin du temps, et qu'il y aura des prisonniers, que les mères, qui seront esclaves, mettront au monde les enfants, qui seront les enfants des maîtres, en fait. Donc l'enfant sera maître de sa mère. D'accord ? Ça, c'est une explication. Et la deuxième, c'est qu'il y aura tellement une mauvaise tarbiya éducation que les enfants auront le contrôle sur leurs parents. Et ça, on le voit aujourd'hui. Donc, ce sont les enfants qui dominent dans la maison. D'accord ? Ça, on le voit plus que l'autre. L'explication, on ne la voit pas encore. Mais aujourd'hui, on le voit, les enfants, aujourd'hui, comme ils répondent à leurs parents, à leur mère, à leur père, tu les vois que les parents, ils sont... l'enfant, il doit tout avoir, il ne faut jamais qu'il soit triste, il faut tout lui donner. Eh bien, ça y est, il va comprendre ce hadith-là que l'enfant devient un maître, en fait, sur sa mère. Non. Ici, il cite également parmi ces signes que tu verras les pauvres va-nu-pieds, d'accord, qui sont gardiens de troupeaux, se concurrencer dans l'élévation d'édifices. Des gens à la base qui n'ont rien, que maintenant tu les vois, ils se battent, ils font des gratte-ciel. Regarde dans les pays arabes aujourd'hui, c'est comment. La plus, les plus gros, plus grands gratte-ciel, ils sont où aujourd'hui? Ils sont pas à New York, hein. Ils sont pas à Manhattan. Ils sont où?
Dubaï.
C'est qui, chez qui Dubaï? Chez les musulmans, chez les arabes. En Arabie Saoudite. Chez les arabes, chez les musulmans. T'as vu, mais à la base, ces gens-là, c'est des bédouins. À la base, ces gens-là, c'est des bédouins. Ben maintenant, tu vois, les plus grandes tours, elles sont chez eux. Quand même. Et aussi, que tu verras pas mal de gens, dans les pays arabes, qui sont pauvres, et qui pourtant vont avoir de la maison la plus haute par rapport à l'autre. Le voisin, il a fait un étage, mais moi, je vais en faire deux. Et tu dis, ah ouais, moi, je vais en faire trois. Alors qu'à la base, ces gens, ils ont rien. Mais ils se concurrencent dans l'élévation d'édifices. Et ça, c'est une chose que l'on constate. Nous, chez le Yémen, on le voit. D'accord? Je pense que vous, dans vos pays d'origine, vous le voyez aussi. Pour ceux qui y vont. Et donc, ça, c'est parmi les signes mineurs. Mais les signes majeurs, t'en as d'autres qui vont arriver. La sortie de Yajuj et Majuj, Gog et Magog, la venue de Issa, la venue du Mehdi, la venue de Djel, la sortie de la bête. Également, le plus grand signe qui est le dernier, celui après lequel il n'y aura plus de croyance, il n'y aura plus de Tawbah, c'est lequel? Le signe ultime. Après celui-là, plus personne ne pourra croire. Les gens vont croire, mais ce sera trop tard pour qu'ils croient. Non.
La Kaaba,
tout ça. Non.
Le lever du soleil.
Exactement. Le lever du soleil de son couchant. Là, les gens vont tous croire, mais ce sera trop tard. D'accord? Et même les croyants qui ont des péchés à ce moment-là, plus de repentir également. Plus de repentir. Ça, ce sont les signes majeurs. Ils n'ont pas encore eu lieu. Aïe. Donc, là, on a fait vraiment un passage rapide à ce hadith qui mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup de kalam. Donc, à la fin, il donne le khurasa, ce qu'on appelle le récapitulatif du hadith. Il dit, awalen, mima yustafa min al-hadith, donc qu'est-ce qu'on profite de ce hadith? Anna sa'il kama yas'alu lil-ta'allum, faqad yas'al lil-ta'lim. Donc, il a dit, le questionneur, comme il peut questionner pour apprendre, une chose qu'il ne connaît pas, il peut également questionner pour enseigner aux autres, comme on l'a dit tout à l'heure. فَالْنِيَا نَا الْمَلَائِكَةَ تَتَحَوَّلْ عَنْ خِلْقَتِهَا وَتَأْتِيَ بِأَشْكَلْ الْأَدَمِيِّينَ. Il dit que les anges changent d'apparence. Ils viennent sous la forme humaine. Et là, il dit une parole qui est importante, il dit وَلَيْسَ فِي هَذَا دَلِيلْ عَلَى جَوَازَ التَّمْثِيلِ أَلَتِي اشْتُهِرَ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَيْنَهُ نَوْعٌ مِنَ الْكَذِبِ وَمَا حَصَلَ لِجِبْرِيلْ فَهُوَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ. Il a dit ce hadith, le fait que Jibril soit venu sous une apparence humaine et interroger le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une preuve pour les gens qui font des mises en scène. Car la mise en scène, ça revient au mensonge. T'as des gens qui se servent de hadith là pour dire on peut faire des mises en scène, des sketchs, des scénarios pour enseigner aux gens. Et il dit non. Parce qu'ils ont regardé Jibril, il a changé d'apparence, donc moi je peux venir et me faire passer pour un autre pour enseigner à ses suites. Il a dit non. L'auteur a dit non. Pourquoi? Parce que Jibril, ce qu'il fait là, c'est Allah qui lui a permis de faire cela. Alors que toi, quand tu fais ça, tu mens. Et le mensonge n'est pas permis. T'as vu? Donc les mises en scène, tout ce qui est film, tout ce qui est série, tout ce qui est ce machin-là, un scénario préparé qui n'est pas vrai, ce n'est pas permis pour la darwa. D'accord? Ce n'est pas permis pour la darwa. On appelle le tamthil, les mises en scène. Et celui qui prendra ce hadith comme preuve, ce n'était pas un argument pour lui. Il dit, Salisan, bayen adab et muta'allim indel mu'allim. Cela montre le comportement que l'apprenti doit avoir face à l'enseignant. رَابِعًا أَنَّهُ عِنْدَ اِجْتِمَاعَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ يُفَصَّلُ الْإِسْلَامِ بِالْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ وَالْإِيمَانِ بِالْأُمُورِ الْبَاطِنَةِ. Lorsqu'on joint entre l'islam et l'iman, l'islam ça veut dire les actes apparents et l'iman les actes intérieurs. Mais si on cite un seul, il englobe l'autre, dans le sens. L'islam c'est l'iman et l'iman c'est l'islam. خَامِسًا الْبِدْءُ بِالْأَهَمِ فَالْأَهَمِ. Ce hadith montre qu'on commence par les choses les plus importantes, les priorités. Jibril, là, n'a parlé que des choses qui sont parmi les piliers déjà de l'islam. L'islam en lui-même, ses piliers, les piliers de la foi, les signes de l'heure. D'accord? Donc quand on fait da'wah, qu'on enseigne aux gens, on commence par le plus important. Et ça, le plus important, c'est quoi? C'est le tawhid, c'est la croyance. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas des autres choses. Mais quand on commence par ça. D'accord? On commence par ça. Sadisan, un arkan à l'islam, khamsa. Que les piliers de l'islam sont de 5 et que les fondements de la foi sont de 6. Et ça, ça va venir dans d'autres hadiths, Inch'Allah. Sabi'an an al-iman bi usul al-iman al-sita wa min jumlat al-iman bil-ghayb. Et que la foi, croire en ces six piliers, revient aux choses qui sont relatives à l'invisible. Thaminan bayan at-tafawud bayna al-islam wal-iman wal-ihsan. Ce hadith montre la différence qu'il y a entre l'islam, l'iman et l'ihsan. Que l'iman est plus haut que l'islam, et que l'ihsan est plus haut que l'iman. Comme on l'expliquait. Tasi'an bayan ulu darajat al-ihsan. Neuvièmement, cela montre justement le haut degré de l'excellence, l'ihsan, que c'est le niveau le plus haut. Ashiran anna ilm as-sa'a mimma istasara Allah bi'ilmihi. Dixièmement, que le savoir de l'heure, c'est une chose que Allah Azza wa Jal a gardé auprès de lui dans l'invisible, dont on n'a pas été informé. Hadi Ashar, onzièmement, bayan shay min amarat as-sa'a. On y trouve certains signes de l'heure. Certains, qui sont très très nombreux. Sani Ashar, douzièmement, qawl al-mas'ul lima la ya'lam Allahu a'lam. Que celui qui est interrogé d'une chose qu'il ne connaît pas, il dit Allah a'lam, que Allah est plus savant. Quand en fait de dire Allah wa rasuluhu a'lam, le fait de dire que Allah et son messager sont plus savants, ça c'était à l'époque des Sahaba, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Après sa mort, il n'y a plus d'utilité de le dire. Donc voilà, en gros, ce qu'on appelle de ce hadith. Voilà, comme je vous ai dit, normalement il mérite bien plus que cela, mais bon. On fait comme on peut, Inch'Allah, pour avancer dans l'Kitab. Taïeb, fa ila huna, fa subhanaka wa bihamdik, la ilan testa fulka wa tubulik.